France Culture.
Bonjour Dominique Moisy.
Bonjour.
Avoigny, épisode 4, Winter is Coming. Évidemment, quand on dit Winter is Coming, on pense à cette devise célèbre d'une série non moins célèbre, Game of Thrones, pour une émission peut-être un peu plus légère que les précédentes et que la suivante. Nous allons voir cela, puisque nous allons travailler à regarder comment vous avez nourri et appliqué vos thèses de la géopolitique des émotions aux œuvres culturelles, et notamment à travers un livre publié en 2016 aux éditions Stock, La géopolitique des séries. Et nous verrons que vous pouvez l'appliquer à d'autres œuvres culturelles. Mais d'abord, cette géopolitique des séries, j'ai envie de vous poser une première question en forme de boutade, peut-être un peu provocatrice. Est-ce que c'est bien sérieux de s'intéresser aux séries quand on est un spécialiste des relations internationales?
Alors, je crois que c'était un moment de détente pour moi, entre des livres plus sérieux, plus dramatiques. Mais c'était une plaisanterie sérieuse. Il me semblait que les séries étaient devenues pour notre époque ce que les feuilletons étaient au XIXe siècle. On avait le temps. Balzac, Zola ont publié en feuilleton leur roman. Ce qui est intéressant dans la série, c'est que on a le temps du temps. Et on a le temps de vivre avec des personnages multiples. On n'a pas besoin d'avoir un ou deux héros particuliers. Et on devient familier avec ces personnages. Et il me semblait que dans ma volonté d'intéresser un public plus jeune à la géopolitique, passer par les séries télévisées était un moyen pédagogique comme un autre. Donc, je m'amusais, mais en même temps, je crois qu'il y avait un message réel. Alors, cette idée d'utiliser l'image comme média pour un message sérieux m'était venue de mes cours à l'université. Dès mon enseignement au Collège d'Europe dans les années 2000, dès mon enseignement à Harvard, à la fin des années 2000, j'avais pris l'habitude de faire précéder mes cours par le visionnage en commun d'un film. Donc on regardait un programme, et ce programme avait pour ambition de préparer émotionnellement les étudiants au sujet que j'allais aborder dans mon cours.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de références à des films de cinéma, cette fois, dans vos ouvrages.
Tout à fait. En fait, au début des années 2000, donc après la guerre dans les Balkans, je pars, à la demande de Jacques Delors, enseigner au Collège d'Europe, à Natoline, près de Varsovie. Et je dois traiter la guerre des Balkans, qui vient de se terminer. Et c'est pas facile, dans la salle, il y a des Croates, des Serbes, des Bosniaques. Et je me dis, il faut absolument créer quelque chose. Et donc, je pars de l'idée que je vais demander à un Serbe de défendre la thèse croate et vice-versa. Mais pour préparer ce moment particulièrement difficile, je leur fais voir en commun, tous ensemble, dans le grand amphithéâtre de l'université, un film qui a été fait par la BBC, qui s'appelle Warriors, guerriers, et qui décrit ce qui se passe quand un groupe de soldats n'a pas de mission claire, ne sait pas ce qu'il doit faire. Donc on est dans les Balkans en 1992. Ça dure très longtemps, 3 heures. C'est assez émouvant. Et après ces 3 heures, je demande qu'on rallume la salle et je vois que les étudiants sont en larmes. Donc j'appelle mon épouse, je lui dis « il est minuit, qu'est-ce que je fais ?» Ils sont tous en pleurs. Il y a une centaine d'étudiants de 24-25 ans. Alors on fait ouvrir le bar, la bière va circuler. Ils vont parler jusqu'à 2-3 heures du matin et le lendemain, ils sont prêts à faire le cours. Et donc, je me suis dit ce jour-là que les images avaient un poids extraordinaire et qu'il était important d'utiliser ce média si l'on voulait confronter les étudiants au drame qu'ils avaient vécu et essayer de susciter en eux une empathie pour la cause de l'autre. Alors, empathie pour la cause de l'autre, c'est les faire parler en défendant la thèse de l'autre adversaire. J'avais fait ça pour au Collège d'Europe pour le conflit israélo-palestinien et un de mes meilleurs étudiants, franco-algérien, qui venait des HLM de Strasbourg, je l'avais désigné pour défendre le point de vue d'Israël. Et il avait été tellement brillant, il avait gagné. Et à la fin, il avait dit devant la salle, il s'était levé, « Bon, j'ai défendu ça, c'était mon rôle aujourd'hui, mais ça n'est pas ma position. » Il avait voulu se dégager de ce rôle qu'il avait joué avec autant de talent. Et donc, je vous parle assez longuement de cela, parce que c'est la vraie raison pour laquelle je me suis dit, mais à travers les séries, à travers l'image, on crée un lien émotionnel d'une nature particulière. Et les séries se sont intéressées à la géopolitique. On est après
le 11 septembre 2001.
Les séries se multiplient sur cette thématique et comme elles ont du succès, elles attirent de l'argent. Comme il y a de l'argent, la qualité monte. Et vous avez des séries qui sont faites parfois avec plus de moyens que les films eux-mêmes. Et donc ça devient un art à part entière. Et je me souviens, à un moment donné, je dis à mes enfants qui sont grands, il faut que je fasse quelque chose sur la géopolitique de la peur. On est au lendemain des attentats de 2015 et je vais utiliser les séries. Et ils me disent tous les deux, mais papa, tu ne peux pas ne pas voir Game of Thrones.
Alors, c'est comme ça que ça commence.
C'est comme ça que ça commence.
Quoique, parce que vous n'avez pas commencé par Game of Thrones. Vous expliquiez, Dominique Moisy, que vous avez été longtemps réticent
à
regarder cette série-là, préférée Downton Abbey.
Ah oui. Non, il a fallu que je prenne sur moi.
Pourquoi ? Trop violent ?
Oui, et puis je n'ai jamais lu ce type de livre, ces fantaisies sur le passé, mélangeant les réminiscences de l'Empire romain, du Moyen-Âge, etc. C'était pas moi. Et puis, j'ai compris très vite qu'il fallait que je l'intègre dans mon livre. Et en 5 semaines, j'ai vu toutes les saisons de Game of Thrones.
Vous êtes pris au jeu.
J'ai été pris au jeu. J'étais complètement prisonnier, addictif. Alors, mon épouse venait de temps en temps et je lui disais, bon, cette fois-ci, j'ai compris, je ne vais pas continuer. Il y a eu plus de 20 morts, 4 décapitations, 5 viols, ça suffit, je vais pas continuer. Et puis je continuais parce que j'étais pris au jeu, quoi, voilà.
Et puis pour les besoins sans doute de votre livre.
À la fin, c'était le je faisais un travail sérieux.
Vous n'étiez pas obligé de regarder jusqu'au bout.
Je faisais un travail de recherche sérieuse, donc j'ai tout vu.
D'autant que Game of Thrones est l'une des rares séries, peut-être avec The Wire, à être étudié aux États-Unis en tant que tel, hein, comme
dans les universités, absolument. Mais c'est une série remarquablement bien faite. Il y a des dialogues qui pourraient presque sortir de Machiavel. Donc j'admirais la série, même si il y a un côté très racoleur, il y a cette violence et ce sexe qui sont pas toujours nécessaires dans la quantité.
Ça, c'est pour les besoins du spectacle, hein.
Tout à fait.
On va dire. Bon, mais c'est pas forcément la dimension qui vous a le plus intéressé. Quelles sont les autres séries que vous avez regardées ou dû regarder, Dominique Moisy, pour votre livre, sachant que il y a quand même un fil directeur qui anime toutes ces séries que vous avez regardées à l'époque, en tout cas, c'est la peur.
Oui. Comme vous dites, hein. J'ai regardé Homeland. C'était la série la plus proche de la lutte contre le terrorisme. Et j'ai trouvé particulièrement intéressant que l'héroïne soit bipolaire. C'est-à-dire que l'héroïne soit en réalité quelqu'un qui, dans son être intérieur, est problématique. Donc la bipolarité venait de disparaître.
Et dans le monde,
vous dans le monde, et l'héroïne de la série était bipolaire. Il y a House of Cards qui était particulièrement intéressant et que j'ai cessé de regarder le moment même où Donald Trump allait devenir président des États-Unis
en 2006,
parce que la réalité l'emportait tellement sur la fiction, ça n'avait plus d'intérêt de regarder Spacey quand il y avait Trump.
Occupied également. Alors Occupied, c'est intéressant parce que Occupied, qui porte sur le retour de la menace russe, vous n'avez pas forcément arrêté de la regarder au moment où ça s'arrêtait, au contraire, au moment où ça redémarre. De fait, Occupied est presque anticipateur sur le monde ensuite.
Et je l'ai trouvée absolument excellente.
Qu'est-ce qu'elle raconte, Occupied, pour celles et ceux
Alors, Occupied, le sujet est passionnant. C'est-à-dire que, en fait, vous avez un gouvernement en Norvège qui veut sortir des hydrocarbures, du pétrole, du gaz, et il va y avoir une sorte de complot sombre entre l'Union européenne, qui ne veut absolument pas que la Norvège sorte des hydrocarbures, et la Russie. Ce qui est passionnant, c'est que les mauvais sont les Russes, qui vont se comporter en Norvège comme en réalité ils se sont comportés en Crimée en 2014. Vous allez avoir des petits hommes verts qui vont s'emparer du pays. Mais il y a un portrait de l'Union européenne terrible. On a l'impression de voir l'Europe à travers les yeux de Donald Trump. Donc il y a beaucoup d'anticipation dans cette série qui, bizarrement, n'a pas eu tellement de succès, alors qu'elle est d'une actualité exceptionnelle.
Mais précisément, au-delà des interactions entre fiction et réalité, qu'est-ce que vous avez trouvé dans les séries qui prolongeaient votre théorie de la géopolitique de l'émotion? Autrement dit, en quoi les séries, en quoi les fictions télé nous permettent-elles de comprendre les évolutions du monde? En quoi elles sont un révélateur des évolutions du monde?
J'ai toujours pensé que les artistes étaient les meilleurs géopoliticiens du monde, beaucoup plus que les spécialistes, parce qu'ils avaient en eux l'intuition du monde qui vient. Ça peut être les écrivains, ça peut être les peintres. Si vous regardez les œuvres de Gross, le peintre allemand, qui sont faites avant la Première Guerre mondiale, on a l'impression qu'il a compris que le monde dans lequel nous vivions allait disparaître. La même chose, me semble-t-il, chez de grands musiciens, de grands compositeurs. Donc il y a une intuition du monde, et je trouvais dans les séries faites par des scénaristes d'une extraordinaire qualité. En fait, on prenait les meilleurs des meilleurs, parce qu'on les payait très très cher. Et eux-mêmes savaient que ils allaient mettre leur qualité au service d'une créativité sans limite. Donc c'était cette idée que en réalité, les scénarios les plus fous étaient plus réalistes que les analyses les plus froides. Et en termes de prévision du futur, il y a une série exceptionnelle pour comprendre l'Amérique de Donald Trump. C'est Le complot contre l'Amérique, fait à partir du livre de Philip Roth. C'est une mini-série de Plot Against America d'une qualité exceptionnelle, avec cette dystopie. Que se serait-il passé si Lindbergh, en 1940, avait été élu président des États-Unis et si Roosevelt n'avait pas été réélu? C'est une série exceptionnelle, terrifiante, et en réalité d'un réalisme total. C'est l'Amérique de Trump, surtout de Trump 2. Donc, si vous voulez comprendre ce qu'est devenu l'Amérique, regardez Le complot contre l'Amérique, d'après Philip Roth.
Est-ce que vous avez continué, justement, Dominique Moisy, vous qui n'étiez pas, avant de vous lancer dans cet ouvrage, La géopolitique des séries, un amateur de séries, vous l'êtes devenu, d'abord pour les besoins et pour la bonne cause, mais pour les besoins de l'écriture de ce livre. Ensuite, est-ce que vous avez continué, parce que vous citez The Plot Against America, il y en a eu beaucoup, hein, Fauda,
oui.
Téhéran, The Americans, The Diplomat, Years and Years, Le Bureau des Légendes, en français, il n'y a pas que la prédominance américaine dans les séries, même s'il y en a surtout des américaines.
Alors, au départ...
Il y a de quoi faire un volume 2, en
quelque
sorte.
Tout à fait. Au départ, et quand j'ai dû faire des conférences sur le monde des séries, après avoir publié mon livre... Je terminais toujours ma conférence en disant ce que j'avais fait. Après avoir rendu mon manuscrit à mon éditrice, je m'étais précipité pour acheter une nouvelle traduction de Guerre et paix de Tolstoï, dans laquelle je m'étais plongé. Donc c'était l'idée, bon, écoutez, c'est amusant, mais revenez à l'essentiel, relisez les grands classiques. Et puis... Le poison est revenu.
Ils sont forts, hein.
Le poison est revenu. Et après avoir dit que c'était fini, je me suis lentement remis aux séries. Et je sais que mon éditrice souhaiterait vivement que je publie un second volume à la géopolitique des séries. Alors, jusqu'à présent, j'ai résisté parce que, pour le coup, l'évolution du monde était trop tragique, trop importante pour que je puisse me permettre une nouvelle distraction. Mais je ne résisterai peut-être pas toujours.
À moins de devenir Dominique Moisy scénariste vous-même, parce que vous avez cédé à l'intuition du monde qui vient dans la géopolitique des séries. La dernière série
oui.
que vous analysez n'existe pas. Elle sort de votre tête, The Balance of Power.
Oui, alors ça, à la fin... je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer une série, mais une série optimiste, avec l'idée que les deux grandes puissances mondiales d'aujourd'hui, la Chine et les États-Unis, allaient se mettre d'accord pour rendre le monde un peu moins désordonné et chaotique. Et je décris la relation amoureuse entre une espionne chinoise ravissante et un espion américain particulièrement charismatique. Et ils sont là, ils vont de Téhéran en Corée du Nord pour éviter la prolifération nucléaire. Et alors ce qui est très amusant, c'est que les gens qui lisaient mon livre, au départ, n'ont pas compris que c'était une fiction. Et ils me disaient, mais où est sortie cette série ? Et à un moment donné, j'ai reçu un appel de Californie et il y avait quelqu'un qui avait lu le livre, qui représentait une grande compagnie et qui m'a dit « Je vais passer à Paris, est-ce qu'on peut se voir ?» Alors je me suis vu soudain très riche et puis hélas, il a eu un problème dans sa famille. Son voyage a été annulé. Et mon rêve...
Il n'a jamais donné suite.
Voilà.
Ouais. Mais à bon entendeur, salut, hein. Le livre existe encore, les droits sont tout à fait achetables, si un scénariste est intéressé. En attendant le volume 2, quand même, de cette géopolitique des séries, Dominique Moisy, il y a peut-être une autre géopolitique culturelle, des émotions culturelles, en tous les cas, que vous pourriez faire. Vous qui avez une discothèque dans la pièce d'à côté immense et qui écoutez énormément de musique, vous êtes un très très grand mélomane, c'est peut-être une géopolitique des émotions de la musique, je ne sais pas, ou la géopolitique de la musique. Mmh. Pour élargir cette géopolitique, en tous les cas, à la musique, y avez-vous pensé ?
Oui, ça fait plusieurs années que... Pendant la période du Covid, j'ai écrit un premier jet de la géopolitique de la musique. Et puis, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu le 7 octobre 2023, il y a eu l'élection de Donald Trump. Donc, ce manuscrit est resté dans mes tiroirs. Mais là encore, c'était l'idée de réunir mes deux passions, la géopolitique et la musique, et d'essayer de créer un lien entre les deux en élargissant, après les images, les sons, le champ de la géopolitique. Et il me semblait que c'était possible. La première image qui s'impose lorsqu'on aborde ce thème, c'est Rostropovitch devant le mur de Berlin qui vient de s'entrouvrir et qui joue une partita pour violoncelle seul de Bach. L'opéra et la bande son de l'histoire de l'Europe. Si vous prenez les opéras de Monteverdi jusqu'à Richard Strauss, ils s'inscrivent, ils accompagnent l'histoire de l'Europe. Les opéras de Mozart, il y en a deux en particulier qui ont une dimension géopolitique, qui sont tous les deux commandés par Joseph II, l'empereur d'Autriche, le despote éclairé par excellence. À Mozart, il y a le grand-duc Paul de Russie qui passe à Vienne pour préparer avec l'Autriche une guerre contre l'Empire ottoman. Et Joseph II commande à Mozart une œuvre qui pourrait stimuler l'unité autrichienne contre les Ottomans. Une œuvre un peu légère, c'est l'enlèvement au sérail. Et quelques années plus tard, Joseph II a été très content de cela, il va demander à Mozart une œuvre beaucoup plus importante, avec une vision politique très claire, qui consiste à dire « je veux imposer mes réformes, la noblesse s'y oppose ». Il y a en France un écrivain, Beaumarchais, qui a écrit quelque chose qui est important dans ce domaine. Et ça va être les Noces de Figaro. L'opéra le plus politique du monde, celui que j'adore le plus, qui me fait pleurer, c'est Fidelio.
Pour quelle raison, Fidelio ?
Parce que c'est le triomphe de la liberté. C'est les prisonniers qui sortent à la lumière. Enfin, quand je vois, après la chute du mur de Berlin, les Berlinois de l'Est sortir des métros, arriver à l'ouest et découvrir les bananes, les oranges, me démontrant que ce régime n'a plus que quelques semaines à vivre, j'ai l'image de Fidelio dans ma tête.
Donc on est quand même à cheval sur la politique et la géopolitique.
Tout à fait.
L'exaltation ou la grandeur du prince, la gloire de la nation, l'unité de la nation et en même temps grandeur et la fierté.
Tout à fait. Il y a la célébration de la grandeur du pays et du prince. Handel, c'est cela. Ce compositeur allemand est le plus britannique de tous les compositeurs. Il célèbre le triomphe de la Grande-Bretagne, sur la France d'ailleurs, soyons conscients de cela. Bien entendu, il y a la grandeur germanique à travers les opéras de Wagner, l'unité italienne à travers Verdi. Il y a ce film Senso, merveilleux, qui montre les scènes du trou vert de Verdi et l'appel à la liberté italienne, mais il y a aussi la résistance au prince dans la musique. Et je dirais que l'exemple le plus extraordinaire de résistance au prince, c'est Shostakovitch. Staline, qui connaît et aime la musique, va commander des œuvres à Shostakovitch et Shostakovitch va résister. Il lui dit, il faut que tu fasses une cinquième symphonie à la Beethoven. Et Shostakovitch fait exactement l'inverse. Il crée une symphonie légère et courte pour résister au diktat du prince. Donc il y a dans mon esprit, à travers les sons, une approche de la géopolitique qui, je crois, n'a pas été faite et qui me semble utile en liant deux domaines qui, en apparence, n'ont rien à voir, mais qui, en réalité, sont beaucoup plus liés qu'on ne le pense. Qui sait que Tannhäuser, l'opéra de Wagner, a été vu, représenté pour la première fois à l'Opéra de Paris, dans le cadre d'une grande diplomatie française. Il s'agissait de démontrer à l'Autriche que la France n'était pas anti-germanique, alors qu'elle venait de s'allier avec le Piémont, le royaume de Savoie, pour créer ce qui va être l'unité italienne, il Risorgimento. Et donc, on laisse attendre Gounod, qui attend son opéra, et on dit non, non, Gounod passera après Wagner, parce que il faut faire passer un signe à l'Autriche. Et donc, vous avez la princesse Metternich, qui est la femme de l'ambassadeur d'Autriche à Paris, qui est très liée avec l'impératrice Eugénie. Et il y a ce complot qui se fait et qui crée Wagner à Paris.
Alors, vous êtes plus amateur, Dominique Moisy, et on l'entend d'ailleurs, de musique classique et d'opéra que de tout autre genre musical. Mais est-ce que vous pensez que ce qui est vrai avec la musique classique dans l'histoire a pu l'être avec d'autres styles musicaux? Je pense au jazz, je pense au rock, je pense au métal.
Totalement. Le hard rock métal est totalement lié à ce qui se passe en Europe de l'Est avant la chute du communisme. C'est une forme de résistance. Vaclav Havel est un grand amateur de jazz. Le jazz, c'est la liberté. Et donc, bien entendu, vous avez en fait le rôle de la musique américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Les notes de musique précèdent le débarquement en Normandie et préparent les esprits au retour de la liberté.
Et si on sort de cet européanocentrisme, on peut penser notamment à la formidable effervescence du début des printemps arabes, mais même en Syrie, où la musique avait un rôle considérable de rassemblement, de résistance, vous le citiez pour d'autres sphères culturelles, mais lors des printemps arabes, la musique a eu un rôle
c'est universel,
immense.
C'est universel, mais alors mon problème et que, autant je connais de l'intérieur, parce que je l'aime profondément, la musique classique, autant j'ai plus de mal à entrer dans des musiques auxquelles je suis plus imperméable. Mais je suis conscient de mes limites.
Donc vous feriez une préface ou un prologue
pour expliquer.
pour expliquer
que
ça n'est qu'une partie.
Je me concentre là-dessus, mais que je suis tout à fait conscient que il y a une dimension universelle dans la relation entre la musique et la géopolitique.
Merci Dominique Moisy. On se retrouve pour l'ultime épisode de ces Awanu, l'épisode 5. Nous parlerons lumière, nous parlerons espoir. À demain.
À demain.
C'était Awanu avec Dominique Moisy. Prise de son Clément Vuillet, réalisation Nathalie Salle, chargée de programme à voix nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.